podcast.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur On Air, le podcast de l'Université Toulouse Jean Jaurès qui vous propose de tout comprendre sur un sujet de recherche, le temps d'un trajet en métro ou en bus. 12 minutes en tête-à-tête avec une ou un chercheur. Je m'appelle Sophie Cholet, je suis journaliste et je rencontre aujourd'hui une historienne de l'Antiquité qui va nous raconter comment les Grecs pensaient la nature. Bonjour Adeline Grand-Clément.
Bonjour.
Alors vous êtes professeur d'histoire grecque à l'Université Toulouse Jean Jaurès, chercheur au laboratoire Patrimoine Littérature Histoire, PLH, de l'UT2J, laboratoire dans lequel vous êtes directrice adjointe de l'équipe de recherche Erasme, et j'ajoute que vous êtes également directrice adjointe de l'UFR Histoire, Arts et Archéologie de l'UT2J. Vos recherches, Adeline Grand-Clément, actuelles en tout cas, font partie d'un vaste champ que l'on appelle l'anthropologie de la nature. De quoi s'agit-il ?
Alors ce champ, comme vous le dites, est en plein développement. Moi, je serai du côté de l'anthropologie historique de la nature. Mais si je reviens sur le champ plus général de l'anthropologie de la nature, c'est un champ qui s'est beaucoup développé avec les travaux de Philippe Descola, depuis l'apparition d'un de ses ouvrages, « Par-delà nature et culture » en 2005. Et son propos était de rassembler beaucoup d'études qui avaient été faites par d'autres ethnologues, anthropologues, pour montrer que la manière d'entrer en relation avec le monde, de percevoir sa propre place dans le monde pour un humain, eh bien, pouvait être diverse. Et que notre manière de séparer nature et culture dans nos sociétés occidentales était un héritage et une construction historique, et qu'il y avait d'autres manières d'habiter le monde.
Et selon les sociétés, il y a différentes visions ou perceptions de la nature. L'arc-en-ciel sur lequel vous avez travaillé en est un exemple.
Exactement, nous avons publié un ouvrage collectif sur ce sujet, Arc-en-ciel, regard comparatif, et on a mis un S à arc-en-ciel en disant que finalement les sociétés humaines ne perçoivent pas l'arc-en-ciel de la même manière, alors que ça nous semble un élément qu'on peut tous décrire aisément. Et en fait, il y a des sociétés qui n'y voient qu'une couleur, que trois couleurs, parfois qui ne parlent pas de la couleur de l'arc-en-ciel, puisque ce qui intéresse, c'est sa forme ou la manière dont il apparaît.
Alors cette perception de la nature, vous en tant que spécialiste de la Grèce antique, vous avez décidé de vous replonger dans les textes pour voir justement comment les Grecs pensaient cette nature. Et les textes que vous avez étudiés, analysés, ce sont des poèmes. Pourquoi ces sources ?
Parce que je me suis intéressée surtout à l'époque archaïque, donc 8e siècle, début du 5e siècle avant notre ère. Et à cette période-là, les Grecs écrivent beaucoup, énormément, sur différents supports. Mais quand ils composent des œuvres qui sont aujourd'hui transmises par le biais de manuscrits d'époque médiévale, eh bien, ils choisissent la forme versifiée. La langue grecque est une langue qui repose sur un certain rythme. Il y a des accents, une accentuation, une tonicité. Et donc, ce sont des poètes. Et tous les auteurs qui ont écrit pendant la période qui m'intéressait ont écrit des poèmes. Et ça n'en fait pas des personnes qui ne seraient pas sérieuses du tout, hein, mais c'est plutôt la manière de dire la vérité à cette époque-là.
Le poème n'était pas forcément une forme littéraire artistique, en fait. Le poème avait une fonction, d'autres fonctions.
Exactement, et la prose n'apparaît finalement que vers la fin du VIe siècle avant notre ère. Et donc les premiers philosophes, ceux du VIe siècle, ils écrivent eux aussi en vers.
Quels sont ces auteurs ? Enfin, si vous pouvez m'en citer quelques-uns.
Alors si on commence pour les premières œuvres conservées, ce serait Homère et Hésiode. Homère, ça pose un grand problème pour savoir qui est Homère et s'il a vraiment existé. Mais Hésiode, on a davantage de renseignements et lui, il a composé son œuvre vers 700 avant notre ère. Et c'est un poète qui justement nous parle des dieux et nous parle de la terre, du travail de la terre, dans un très beau poème qui s'appelle « Les travaux et les jours » et qui montre justement cette attention portée à la nature.
Qu'est-ce qu'il dit d'autre dans ces poèmes ?
La théogonie, c'est la naissance des dieux. Donc là, il raconte comment toutes les puissances divines sont nées de Gaïa, qui est la Terre, qui elle-même est issue du gouffre primordial. Et donc, il y a une généalogie comme ça des dieux. Les dieux naissent, ils ne meurent pas, mais ils naissent en revanche. Et la plupart de ces puissances divines sont en lien avec des flux géophysiques, des éléments que nous, on qualifierait de naturels. Hein. Donc, on voit très bien que le monde qu'on qualifie de naturel est d'emblée peuplé de dieux. C'est ce que nous montre Hésiode. Et donc, dans l'autre poème où il donne des conseils à son frère qui est paysan, eh bien, on voit l'intrication, là encore, du monde des dieux et puis de tout cet environnement dans lequel l'humain doit trouver sa place.
C'est là où se situe le rapport à la nature qu'avaient les Grecs dans l'Antiquité ?
Oui, c'est un exemple de source qu'on peut étudier pour voir l'attention portée à l'environnement et le sentiment de faire partie d'un système et de ne pas en être séparé. Et aussi la nécessité d'être plein de modération, plein de respect et de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas basculer dans ce que les Grecs appelaient hubris, excès.
Ils étaient déjà bien sages à l'époque.
Eh bien oui, j'avoue que parfois quand on lit certains auteurs grecs, il y a beaucoup de résonance avec ce qui se passe aujourd'hui.
Eh oui, d'où l'intérêt de replonger dans ces textes qui sont encore d'actualité finalement. Il y a un rapport donc de soumission à la puissance de la nature dans ce que vous me dites par rapport à... Parce qu'il y a l'action des dieux qui est derrière, par exemple les phénomènes, les grands phénomènes climatiques ou les catastrophes climatiques. Les Grecs, eux, mettaient quelque chose de l'action de Dieu derrière.
Oui, en dernier ressort, pour beaucoup de manifestations atmosphériques, c'est Zeus. Et quand Zeus n'est pas content, ce sont des tempêtes, des orages, des pluies diluviennes, donc des inondations, des glissements de terrain. Quand Poséidon n'est pas content, ce sont des tremblements de terre. Et donc, les Grecs attribuent à l'agentivité divine des ce que nous on appelle catastrophes naturelles. Et donc, leur moyen d'y faire face, c'est de se dire, on a dû faire mal quelque chose. En général, on a basculé dans l'hubris, on a trop fait, on n'a pas respecté les traditions des ancêtres. Et donc, on va réparer ça et on répare avec du rituel. Et le rituel, c'est aussi faire communauté. Donc, ça resserre les liens au sein de la communauté humaine également qui est touchée par une catastrophe.
C'est un élément de cohésion de la société.
Oui, c'est un élément de cohésion très important.
Et c'est finalement aussi, manifestement, un élément de cohésion dans le rapport humain environnement, les rituels, quelque part.
Oui, alors ce qu'on voit déjà dans les rituels, c'est que beaucoup de ces rituels se passent en plein air, puisqu'on a toujours l'image du temple grec, mais en fait, ce n'est pas comme une église moderne ou dans laquelle se déroulerait une messe, mais la plupart des rituels sont faits en extérieur, il faut juste un autel sur lequel on allume du feu et on fait brûler des choses pour les dieux. Et donc, le cadre naturel, ce que nous on appelle le cadre, mais qui est davantage qu'un cadre pour les Grecs, qui est le milieu dans lequel on communique avec les dieux, est un milieu essentiellement naturel. On peut avoir un sanctuaire qui est un bois sacré. Donc, c'est une forêt ou un verger, une source, une grotte, tous ces éléments-là. Et donc, on est en permanence, quand on est grec et qu'on veut faire du rituel, stimulé par tous ces éléments sensoriels qui sont issus de l'environnement naturel, animaux, végétaux, etc.
Dans ce que vous me dites, Adeline Grand-Clément, j'ai l'impression que les Grecs, même si certaines sociétés domestiquaient déjà les éléments naturels, comme l'eau notamment, ils avaient quand même cette notion, dans ce que vous me dites, que tout n'est pas maîtrisable dans la nature.
Oui, c'est ça. Il y a la conscience de la vulnérabilité de l'être humain. Si quelques auteurs parfois évoquent ce contrôle effectivement sur les éléments, cette volonté d'assurer une forme de domination humaine, ça reste toujours contextuel. Et dans l'absolu, si on regarde sur le temps long de l'histoire grecque, avec les différentes cités qui ont existé et qui ont coexisté, eh bien, on voit que globalement, il y a quand même cette idée d'une part d'aléa. Et en fait, il faut composer avec cet aléa. Et cette part d'aléa, elle est due à cette agentivité divine qui fait que quoi qu'on fasse, et même quelquefois quand on pense tout bien faire, eh bien, il peut toujours arriver quand même quelque chose.
Qu'est-ce qui vous a frappé, vous, dans la relecture de ces textes, justement, sous l'angle de l'anthropologie historique de la nature ?
Ce qui m'a intéressé, c'est d'abord qu'on projette beaucoup sur les Grecs des choses actuelles, en pensant que les Grecs sont nos ancêtres directs. Et donc, on dit c'est Aristote, c'est l'homme est la mesure de toute chose. Finalement, les Grecs, c'est déjà un peu ce qu'on est aujourd'hui. Moi, j'essaye de les mettre à distance. C'est en cela que je fais de l'anthropologie historique de la nature. Je les étudie comme les anthropologues étudieraient les Atchouars en Amazonie, en disant les Grecs sont autres, ils sont différents. Et je trouve que ce dépaysement, cette manière d'aller voir les autres, ceux qui ne pensent pas finalement comme nous, de retrouver leur catégorie, ça nous ouvre d'autres fenêtres pour voir le monde, nous, aujourd'hui. On se dit que finalement, des choses qui pour nous sont évidentes, l'arc-en-ciel a 7 couleurs, l'homme est séparé de la nature, eh bien, ne vont pas de soi. Et je pense que c'est salutaire dans la situation dans laquelle on est de se décentrer.
Et quand on enseigne l'Antiquité, comme vous, l'Antiquité grecque, est-ce que l'anthropologie historique de la nature fait partie de l'enseignement ?
Alors, j'ai eu du mal à le faire rentrer parce que j'avoue que Dans les maquettes actuelles, on a tendance à avoir des cours assez classiques, qui sont des cours qui mettent plutôt en avant l'histoire politique, institutionnelle, et pour donner un cadre, en fait. Parce que ce travail-là, d'anthropologie historique de la nature, il nécessite d'avoir déjà un peu un contexte, une base.
Un bagage.
Bagage. Donc, c'est en L3 que je commence à développer cet enseignement-là autour d'un cours d'anthropologie historique de la Grèce, dans lequel j'introduis cette question de l'anthropologie historique de la nature.
Et ça suscite l'intérêt des étudiants ?
Et ça suscite l'intérêt des étudiants. Donc, ce que je souhaite développer, c'est de plus en plus de sujets de master qui porteraient sur des thématiques en lien avec ce domaine.
Adeline Grand-Clément, est-ce que vous auriez une référence, la tradition dans On Air, à conseiller à celles et ceux qui nous écoutent sur ce qu'on vient d'évoquer?
Oui, je pense que je peux donner un site ressource. C'est un carnet de recherche hypothèse, donc il y en a plein qui existent. Et celui que je voudrais conseiller à tout le monde, c'est celui qui s'appelle Hésiode, donc H-E-S-I-O-D-E, point. Et ensuite, hypothèse, sans accent, mais avec un S à la fin, .org. Et là, il y a des podcasts, c'est tenu par un collègue d'Angers. Il a enregistré des séances de séminaire, il fait des comptes rendus d'articles, il parle de manifestations scientifiques en lien avec ce domaine-là. Et il fait le lien avec le présent aussi, ce que je trouve très intéressant.
Donc tout ça, ça fait partie du carnet de recherche.
Tout ça, ça fait partie du carnet de recherche. C'est vraiment un lieu plein de ressources.
Je vous remercie grandement, Adeline Grand-Clément, d'être passée au micro de On Air.
C'est moi qui vous remercie.
On Air est une production de l'Université Toulouse Jean Jaurès, portée par le Centre de promotion de la recherche scientifique, le service communication et le pôle production, le vidéographe de la Maison de l'Image et du Numérique de l'UT2J. La réalisation est signée Cédric Perronnet du pôle production, le vidéographe. On Air est diffusé sur Miroir, le web média de l'Université Toulouse Jean Jaurès et est accessible via le site www.univ-tlse2.fr. Vous pouvez aussi retrouver On Air sur les différents comptes de l'UT2J et bien sûr sur les plateformes numériques. On Air.